Le kilo de tomates. J'ai pas un, j'ai pas deux, j'ai pas trois, j'ai pas quatre. J'ai 5 ans. Couché sur le tapis à fleurs du salon, je compte mes années sur les doigts de la main. C'est chouette. J'ai autant d'années que de doigts sur une main. Les autres, ils n'ont pas cette chance. Mon frère, par exemple, il a besoin d'une main et ensuite il lui faut encore 2 doigts de l'autre main. Moi, j'ai un âge parfait. Une fois, j'ai essayé de savoir quel âge j'aurais quand j'aurais besoin de tous les doigts des mains et des pieds pour savoir quel âge j'ai. Mais je me suis perdu. L'âge, c'est compliqué. Le temps, j'y comprends rien. Une seconde, ça va. Une seconde dure un clignement de paupières. Un quart d'heure, c'est déjà plus difficile. Une heure, ça veut dire combien d'abord? Et le quart, ça veut dire quoi? Je sais pas. Par contre, je sais combien il y a de jours dans la semaine. Mardi, mercredi, samedi. Ma tante Eugénie prétend qu'il en existe plein d'autres. Combien au juste? Est-ce qu'il y a plus de jours de la semaine que de doigts de pied? Et juillet, c'est quel jour de la semaine? Et puis surtout, pourquoi le mardi dure plus longtemps que le mercredi? J'ai pas un, j'ai pas deux, j'ai pas trois, j'ai pas quatre. J'ai 5 ans. Un rayon de soleil s'est posé sur mon ventre. Ça me chauffe bien. Le tapis devient tiède. La poussière flottant dans le salon commence à danser dans la lumière. Toujours couché sur le dos, je tape un genou contre l'autre. Lequel est le gauche, lequel est le droit? Je sais pas. Par contre, je me souviens très bien qu'il y a une semaine, c'était mon anniversaire. Je me souviens qu'un peu avant, papa, maman sont partis de la maison. Le soir, ils sont là, le matin, ils sont plus là. Comme un tour de magie. Ils ont pris de longues vacances, m'explique tante Eugénie d'une voix bizarre. Mais ton frère et toi, vous pourrez bientôt les rejoindre. Vous quitterez Bucarest pour habiter avec eux, dans un pays incroyable. Tu vas adorer. Mais il faut être un peu patient. Oui, elle n'a pas l'air très sûre de ce qu'elle affirme. Les journées passent comme si de rien n'était. On habite au 5e étage d'un bloc dans lequel habitent des tas de familles. Oncle Prosper part le matin pour l'usine et revient de l'usine le soir. Tante Eugénie part le matin pour son bureau et revient de son bureau le soir. Le mardi, grand-mère Clarisse part au marché et revient les bras chargés d'un sac de pommes de terre, d'un panier d'oignons et d'un kilo de tomates. Grand-mère Clarisse a 60 ans. Dans combien de temps je reverrai papa-maman? Dans plus ou moins de 60 ans? Mon frère et moi devons continuer à faire comme si de rien n'était avec nos copains. Bucarest ne doit pas se douter que papa-maman sont partis. Aujourd'hui, c'est mardi. Grand-mère Clarisse, cheveux blancs tirés en arrière, revient du marché. Grand-mère Clarisse, cheveux blancs tirés en arrière, revient du marché et dépose les légumes sur le balcon. Alexandre vient me chercher. Ensemble, on sort sur le balcon pour contempler le kilo de tomates. Elles sont lisses, belles, et pas plus grandes qu'un nez de clown. Après m'être collé une tomate sur le museau, je commence à faire le pitre. « Arrête ça !» ordonne mon frère. « Sinon, tu n'iras pas rejoindre papa-maman. »« Ah bon ?» je dis immobile. « Et... Pourquoi ?»« Parce que t'es idiot. Et papa, il n'a pas besoin d'un idiot. » Et toi, t'es un grand intelligent? Peut-être. Exactement, répond-il en se pavanant comme une star de cinéma sur notre balcon. Parce que moi, je vais à l'école. C'est vrai que lui, il a commencé l'école. Moi, je reste à la maison avec grand-mère. Les paroles de mon frère me font réfléchir à toute vitesse. Et si là-bas, dans ce pays merveilleux où on doit bientôt partir, papa-maman avaient déjà adopté un autre gène? Un Eugène plus malin que moi, qui n'aurait jamais fait de bêtises, qui ne ferait pas pipi au lit le mardi, le mercredi et le samedi. Un Eugène obéissant, un garçon de 5 ans qui ne piquerait pas des crises s'il n'y a pas de chocolat dans l'armoire de la cuisine. Depuis combien de temps ils sont partis ? Les mots restent collés à mes lèvres. On dirait des bouts de biscuits macérés dans ma salive que j'essaie de recracher. Mais on ne dit pas coller, on dit bégayer. Je bégaye très fort. Je bégaye le mardi, le mercredi et le samedi. Je bégaye en juin, en janvier et en hiver. Je répète. Depuis que combien de temps ils sont partis ? 2 semaines. Ça fait plus ou moins qu'une année ? Oh, t'es vraiment trop bête, toi, soupire-t-il en haussant les épaules. Non mais, dans combien de temps on va les rejoindre ? Moi, bientôt, toi, je sais pas. La prochaine fois qu'ils appelleront au téléphone, je leur dirai que tu connais même pas la différence entre les mois et les années. Ils seront tellement déçus. Mon frère a toujours trouvé les mots parfaits, le ton idéal et la mimique adéquate pour me faire enrager. Je prends une tomate du panier pour la lui balancer à la gueule. « Hey, si tu fais ça, je vais le dire à grand-mère. M'en fous ! Tu seras puni. Tu n'iras jamais en Suisse. » Mon visage devient tout rouge. Je souffle comme le bœuf énervé par la foule que j'ai aperçue un jour au marché. Je sais qu'il a raison. Si je lui éclate une tomate à la gueule, je pourrais dire adieu à mes parents. Incapable de laisser retomber la petite boule rouge, je détourne ma colère en la balançant dans le ciel, au hasard. Elle atterrit avec un grand splash au pied de 2 dames installées sur des chaises métalliques au bord du terrain vague devant le bloc où nous habitons. Occupée à éplucher des patates, la première pousse un grand cri horrifié, tandis que la seconde lâche sa pomme de terre qui vient rouler dans la poussière. Aussitôt, mon frère et moi, nous nous cachons derrière le mur du balcon en éclatant de rire. Une minute plus tard, le bout de nos fronts réapparaît prudemment. On ose même jeter un coup d'œil en bas de la maison. Les 2 bonnes femmes recrutent chaque fenêtre du bâtiment. Mais comme le terrain vague est bordé par 3 autres blocs, elles peuvent continuer à chercher longtemps. « Et si je touche le facteur, j'irai en Suisse avant toi », déclare Alexandre avec un air de défi. Sa tomate s'écrase sur la roue avant de sa bicyclette. Les gouttes et les pépins éclaboussent son uniforme de la casquette aux chaussettes. Le facteur surpris perd l'équilibre et termine sa course à plat ventre, dans la terre battue parsemée de touffes d'herbes jaunies. On contemple pendant 3 secondes ce spectacle fantastique, puis on disparaît derrière le mur du balcon. En bas, on entend les injures du facteur envahir tout le quartier. On retient notre souffle, on retient notre rire. Mais nos yeux crépitent de joie. J'attrape un nouveau projectile. Doucement, je relève la tête pour inspecter les alentours. J'aperçois Madame Merlescu, la mère de Sorine, un garçon que je ne peux pas piffer. Et si je touche la mère de Sorine, je pars pour la Suisse demain matin. Le projectile part dans la bonne direction. Hélas, j'ignorais qu'il fallait tenir compte du déplacement de la cible. Contre toute attente, à la place de Madame Merlescu, un gros chien errant se trouve là. Paf ! En plein dans les côtes. Blessé dans sa fierté, le clébard, taché de rouge, aboie à s'en décrocher la mâchoire. Plusieurs habitants du quartier sortent aux fenêtres pour savoir ce qui se passe. Les 2 dames aux pommes de terre expliquent en hurlant qu'un petit malin terrorise la cour avec de la nourriture. « Vous vous rendez compte ? Quel gaspillage ! » crie la première. « Moi, la semaine passée, j'ai fait la queue pendant 2 heures pour un paquet de sucre et un cajot de tomates !» ajoute la seconde. Alex doit réagir. Sa fierté de grand frère est en jeu. Alors il s'empare de toutes les tomates restant dans le panier pour les jeter par-dessus bord. Une pluie de tomates s'abat dans la cour. Ça hurle, ça se déchaîne, ça menace, ça aboie, ça vocifère. On s'écrase les côtes et la bouche pour ne pas exploser de rire. Puis, à 4 pattes, on retourne dans l'appartement. Là, on se redresse d'un bond. Nos yeux sont mouillés de larmes de rire. Ni vu ni connu, Alexandre retourne à ses devoirs scolaires, tandis que moi, je plonge le nez dans un de ces livres gigantesques pleins de photos de pain. peintures rangées dans la bibliothèque de notre appartement. Deux anges studieux dans un monde de brutes. Les heures passent en silence. Bizarre. Incroyable. Personne ne sonne à la porte. Visiblement, aucun de nos voisins ne nous a débusqués. De temps en temps, mon frère et moi échangeons un regard et aussitôt, on écrase un fou rire. À l'heure du repas, grand-mère Clarisse sort sur le balcon. Elle revient en fronçant les yeux, puis se dirige vers la cuisine. Énervée, elle inspecte le vestibule. Enfin, après avoir vérifié dans chacune des quatre chambres, elle s'approche de nous. « Dites donc, j'ai acheté 1 kilo de tomates au marché. Vous les avez pas vues ?» On se regarde avec étonnement, puis on la fixe en soulevant nos sourcils jusqu'au plafond. Et pour bien lui prouver qu'on en sait aussi peu qu'elle sur le sujet, on fouille du regard le salon. Alex va jusqu'à jeter un coup d'œil sous la table. « Mais enfin, elles n'ont pas pu disparaître comme ça !» s'exclame grand-mère Clarisse. Elle fait un pas vers nous en plantant ses poings sur ses hanches. Ça, c'est super mauvais signe. Je suis sûr que vous y êtes pour quelque chose. Le bout de son pied droit tape nerveusement sur le tapis à fleurs. Alors ça, c'est ultra mauvais signe. J'attends, prévient-elle en haussant la voix. Je regarde Alex qui me regarde à son tour. Je regarde grand-mère Clarisse qui fronce les sourcils. Je fixe le bout de mes orteils en rougissant. Ça y est, c'est fichu. La Suisse, papa-maman, les retrouvailles, le pays fantastique. Perdu pour 1 kilo de tomates. Quand j'entends soudain mon frère murmurer « On avait faim. On avait faim, grand-mère, alors on a mangé les tomates. » Grand-mère Clarisse ouvre la bouche en soupirant. Elle fait une grimace horrible, comme si on lui avait planté un couteau dans le ventre. Ses bras se tendent vers nous. « Oh, mes pauvres petits, vous aviez si faim !» On se blottit dans les bras de grand-mère. Elle est désolée de nous avoir affamés. Quand mon oncle et ma tante rentrent du travail, grand-mère Clarisse leur raconte que la faim nous a poussés à dévorer 1 kilo de tomates. Ils sont catastrophés. Pourvu que mon père et ma mère n'apprennent jamais cette tragédie. Mes parents nous ont confiés à leurs bons soins et mon oncle et ma tante nous laissent mourir de faim. Alors, le soir même, Alex et moi mangeons pour 12. Blanc de poulet, riz pilaf, colline de boulettes de viande épicée, limonade à volonté, confiture dans une coupelle et, comme si ça ne suffisait pas, riz au lait saupoudré de cannelle. Jamais de ma vie je n'ai été aussi bien récompensé d'avoir menti. Une chaussure au pays d'en haut. Tous les élèves descendent des bus gris. L'air est vachement frais. Faut dire qu'on n'a pas arrêté de grimper depuis au moins une demi-heure entre les montagnes vertes. On est parti ce matin, dimanche, très tôt, du camp de base. Le camp de base se trouve au-dessus de Châteaudet. Châteaudet, c'est dans le pays d'en haut. Le pays d'en haut, c'est en Suisse. Autour de moi, tout, absolument tout, est nouveau. D'abord, je n'ai plus aucun copain. Je viens d'entrer à l'école secondaire du Belvédère. J'ai 10 ans et j'ai perdu tous mes copains d'école primaire. Ils ont été répartis dans d'autres classes. Autre catastrophe, on a commencé l'allemand. Tante Eugénie, qui est finalement arrivée en Suisse il y a 2 ans, m'a rassurée pendant l'été en me disant qu'elle connaît un peu la langue allemande. Elle pourra réviser avec moi. Pas de chance, on part à l'école à la montagne juste au début de l'année scolaire. Je commencerai donc les cours d'allemand sans aucune aide. Et pour moi, la vie se divise en deux. La famille qui protège, le monde qui inquiète. Me voilà perdu en plein monde qui inquiète. Et puis, il y a un troisième malheur. L'école à la montagne se passe à la montagne. Et moi, la montagne, j'y connais rien. Avec papa-maman, on est bien allé 1 ou 2 fois en promenade au col de la Fourca, voir le glacier. Mais sinon, rien. Rien à part les parkings d'autoroute. Oui, mes parents sont tombés amoureux des parkings des autoroutes suisses. avec leurs bancs en béton, leurs tables en béton, leurs poubelles propres et des WC qui ne puent pas. En plus, la forêt n'est jamais très loin. Donc, plusieurs dimanches par année, on arrête la bagnole sur un parking, on pique-nique, puis on s'enfonce un peu dans la forêt pour jouer ou étendre un plaid. 2 heures plus tard, on revient dans la voiture, on reprend l'autoroute, on change de direction à la prochaine sortie et hop, à la maison. Alors, moi, le pays d'en haut, je n'en ai jamais entendu parler. Quel drôle de nom d'ailleurs. Comme s'il existait un pays d'en bas, un pays d'à droite et un pays d'à gauche. Il ne manque plus qu'un pays d'avant et un pays d'après, comme ça on aura visité toutes les possibilités. Mais le pays d'en haut existe pour de vrai. Avant mon départ, papa a déplié une carte routière du canton de Vaud. Le pays d'en haut se trouve en bas, à droite. Cherchez pas à comprendre. Bon, je reviens à mon dimanche. On est parti en bus du camp de base, situé déjà assez haut pour grimper encore plus haut. Par la fenêtre, j'admire les petits chalets bruns avec leurs toits qui brillent sous le soleil. Il a plu depuis notre arrivée à Châteaudet. Aujourd'hui est le premier vrai jour de soleil. Pendant qu'on roule, j'envoie une petite prière à Dieu. Des fois, ça marche. Pour qu'il fasse en sorte que personne ne remarque que je suis étranger. Non, mais déjà que je bégaye comme un monstre, alors si en plus je me fais remarquer en commettant quelque chose de faux qui va faire marrer les autres, les quatre moniteurs nous répartissent en groupes et on commence à marcher. Au bout de cinq minutes, une fille demande. « Il y aura beaucoup à marcher, monsieur ?»« Mais quelle femmelette !» ricane un grand à cheveux blonds. « C'est bien une question de gonzesse, ça !» remarque son copain, un petit qui a l'air méchant comme dans les films à la télé. « Et puis, tais-toi, tu pollues l'air !» envoie encore quelqu'un au milieu du groupe. Les moniteurs établissent l'ordre et font cesser les moqueries. Mais assez mollement. Ils ont surtout envie de profiter du ciel bleu et du paysage qui nous entoure. Bon, ça va, j'ai compris. L'ambiance est à la guerre. À la moindre faute, on est ridiculisé. Je refais ma prière. Des fois, quand on prie deux fois, ça marche mieux. Malheureusement, je me suis touché le coucou hier soir dans mon lit. Dieu doit m'en vouloir pour ça. Je lui avais promis de ne plus jamais le faire. Après avoir marché sur du goudron, le moniteur de tête indique un sentier qui part raide dans la montagne. Les choses sérieuses commencent. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Je suis ému comme si j'avais une poésie à réciter devant la classe, autrement dit la pire chose qui puisse arriver à un bègue. Le sentier est très étroit. On doit écarter les branches de sapin. Je jette des petits coups d'œil autour de moi. Le grand blond grimpe comme un bouquetin. On dirait qu'il a toujours fait ça dans la vie. Moi et mes parkings d'autoroute, on n'ira pas loin. La terre sous nos pieds devient humide. On écarte de temps en temps les jambes pour éviter une flaque de boue. J'entends deux moniteurs discuter entre eux. Ils se demandent si c'est une bonne idée de continuer. Comme il a plu pendant 3 jours, on ferait peut-être mieux de redescendre. Je reprends espoir. Mais l'autre moniteur lui répond tranquillement que non, ça veut jouer. Ça veut jouer. Drôle d'expression. Qui veut jouer à marcher dans la boue des montagnes? Je regarde les chaussures de mes voisins. Ils portent des gros machins montant jusqu'aux chevilles. Moi, j'ai des kickers pas solides achetés chez Emmaüs parce qu'on est des réfugiés politiques. Quand on a reçu la liste des affaires à emporter à la montagne, il m'en manquait la moitié. Certains mots nous ont fait suer. Un caouet, par exemple. C'est quoi un caouet? Le petit Larousse de la langue française 1966 ne connaît pas. Et puis, des habits pas dommage. C'est quoi? Là, on a fait appel à Tante Eugénie. Assis autour de la table du salon, papa, maman et Tante Eugénie ont réfléchi longtemps. Dommage, c'est synonyme de catastrophe, dit le dictionnaire. Donc, les habits pas dommage signifient des habits pas catastrophiques, c'est-à-dire faciles à porter, des choses légères. Mais qu'est-ce que tu racontes avec tes choses légères? Le petit va à la montagne, il a besoin d'un gros pull au vert. Oui, mais un pull au vert, pas dommage. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont discuté comme ça un bon moment. Finalement, j'ai pris un peu de tout. Habit chaud, très dommage. T-shirt dommage, mais ça ira. T-shirt pas trop dommage. Et pantalon, ni dommage, ni heureusement. Des pantalons normaux, quoi. Pour les chaussures, ça a été encore plus compliqué. Une famille qui vient de Bucarest et qui pique-nique sur les parkings d'autoroute ne possède pas la moindre paire de chaussures de montagne. La honte totale. Je vais à la montagne sans chaussures de montagne. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi on n'est pas des gens normaux? J'ai demandé à ma maman. Tais-toi, s'il te plaît. Maman m'a donné les chaussures les plus solides qui se trouvaient dans la commode. Des jolis kickers bleus avec une ficelle blanche au-dessus de la semelle. On marche depuis un quart d'heure sur le sentier de montagne. Un moniteur se retourne soudain vers nous pour nous dire qu'un passage plus difficile nous attend. Oh, c'est vraiment plein de boue, précise une monitrice. Alors, faites bien attention, les enfants, hein. Ne vous en mettez pas partout. J'arrive au passage dangereux. Une quinzaine de filles et de garçons sont déjà passés avant moi. Leurs traces sont encore bien visibles. Je commence à marcher prudemment. Ma kickers gauche a déjà pris de la boue sur le côté droit. Je marche sur la pointe des pieds. Ça s'enfonce très vite. Ça fait pchak pchak sous la semelle. Alors je marche sur les talons. Mais ça va pas non plus. J'écarte les pieds autant que possible pour avancer plus vite. Mes chaussures sont dégoûtantes maintenant. Et tout à coup, je soulève le pied droit et ce que je vois au bout de ma jambe me terrorise. Il n'y a plus de chaussures droites, seulement une chaussette mouillée. La godasse est restée dans la boue, quelque part, au fond. Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Je me retourne, je cherche des yeux, mais les autres élèves continuent d'avancer. Ils enfoncent avec leurs bonnes chaussures de montagne ma petite kickers bleue au fond de la boue. J'ai envie de les tuer. Non mais arrêtez-vous, arrêtez de faire ça! Le vrai cauchemar commence quand j'entends une voix, celle du grand blond. « Eh, regardez, Eugène a perdu sa chaussure dans la boue. Ah ouais, c'est vrai. Non mais quel nul celui-là !» Le moniteur le plus proche se retourne. Je lui montre ma chaussette. Les larmes montent aux yeux. Je transpire à grosses gouttes à l'idée qu'un cercle se forme autour de moi. « Attends, me rassure le moniteur. » On va la retrouver. Je le regarde fouiller la boue avec un bâton. Des élèves s'arrêtent derrière nous en demandant quel est le problème. Rien, 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 je réponds. Non, si, si, me coupe le grand blond. Eugène a perdu sa chaussure. Regardez, il est en chaussette, ce con. Ça y est, la rumeur est lancée. Maintenant, ceux de devant reviennent en arrière pour voir le spectacle, tandis que ceux de derrière se pressent pour ne rien manquer. Je voudrais m'enterrer, échapper à cette catastrophe. Le moniteur fouille, inspecte et creuse. Un autre vient à la rescousse. Mais il n'y a rien à faire. Ma chaussure a disparu. Elle est passée du pays d'en haut au pays de très en bas. Oh, quelle histoire ! Rouspète le moniteur qui en a marre de fouiller. « Non mais, t'aurais pas pu faire attention !» Je hausse les épaules. « Bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» me demande le moniteur. « On le laisse ici ?» propose un élève. « Ouais, » dit un autre. « Il n'a qu'à nous attendre. On reviendra le chercher ce soir. »« Non, » répond le moniteur, « on ne revient pas sur nos pas. On va marcher tout droit. » Les bus nous attendent dans l'autre vallée à 17h. Une monitrice me regarde et soupire. Un autre regarde sa montre et soupire. Je vois bien que j'embête tout le monde. Mais il fallait pas me prendre. Je connais pas la montagne. Je sais pas faire juste, je suis nul. Bon, écoute, déclare le moniteur, une main posée sur mon épaule. On ne peut pas revenir en arrière, les bus sont déjà partis. On doit continuer, tu comprends ? Alors tu marcheras avec une chaussure gauche et une chaussette droite, voilà. Je lève la tête. Il plaisante, c'est sûr. C'est une blague suisse. Allez, courage, mon grand. Le groupe recommence la marche. Des élèves pouffent de rire en me pointant du doigt. J'avance de mon mieux sur le sentier. Parfois le sol est caillouteux, parfois recouvert d'herbe humide. Mais de toute façon, que ce soit dur, pointu, bosselé, froid, tiède ou mou, c'est pas sous mes pieds que ça me fait le plus mal. J'ai mal à la honte. Je me souviens de l'atlas d'anatomie qu'oncle Marcel nous a montré à Bucarest. On voyait la place du cœur, des poumons, de l'estomac. Mais la honte, elle est où dans le cœur ? Les heures passent lentement. Une ou deux filles prennent ma défense quand certains élèves deviennent trop méchants. Arrêtez de rire, je voudrais bien vous voir à sa place. Ça me fait du bien. Des paroles d'élèves que je ne connais même pas, mais qui prennent la peine de me défendre. Hélas, la balade est longue. On descend et on monte sans arrêt. Après avoir traversé une forêt, on longe une prairie. Un groupe d'élèves en profite pour se rouler dans l'herbe. D'autres jouent à s'attraper. Moi, je boite. En début d'après-midi, on arrive dans un village. Des maisons à volets rouges sont collées autour d'une église à clocher très fin. Quelques grosses vaches nous regardent passer. Derrière une grange, des montagnards nous attendent. Ils ont dressé des assiettes sur une table en bois. À côté, un gros chaudron fumant dégage une odeur que je n'aime pas. On doit faire la queue pour avoir de la soupe. Pendant que j'attends mon tour, le grand blond me donne un coup de coude. « Alors, elle te plaît la promenade ?» J'ai envie de lui sauter dessus, de lui casser les dents, de fermer les yeux et lui taper dessus aussi fort et aussi longtemps que je peux. Mais j'ose pas. Les moniteurs exigeront des explications, alors je bégayerai comme un animal. Et je serai ridicule. Alors je réponds rien au grand blond. Une fois mon assiette remplie d'un liquide vert, je retourne m'asseoir. En passant, j'attrape un morceau de gruyère jeté en vrac dans un grand bac en plastique. J'inspecte la soupe avec méfiance. Je préfère le bortsch. Ce verre dans mon assiette, je le trouve dégoûtant. Je croque dans le gruyère. C'est trop salé. J'aime pas les fromages suisses. J'avale de gros bouts de pain blanc pour calmer un peu ma faim. Ensuite, on a droit à du thé brûlant accompagné de 4 carrés de chocolat. Ça, évidemment, c'est super bon. Le moniteur frappe déjà dans les mains. On repart, les enfants ! Des cris de joie fusent à droite à gauche. Moi, je dodeline de la tête. Ma chaussette s'est transformée en serpillière noire et brune, parsemée de brins d'herbe. Tête basse, je rejoins le groupe. Je n'arrive pas à détacher mon regard de ma chaussette. Et puis je commence franchement à avoir mal à la hanche. À force de faire des clop-clop, il fallait s'y attendre. Je voudrais être ailleurs, à Lausanne, avec mes jouets, ma famille et la fumée de cigarettes qui flotte en permanence dans le salon. Une bouffée de rage monte en moi. Je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Et je fais un geste assez stupide. Je jette ma Kickers gauche en bas de la colline. « Ah, bravo !» commente avec ironie la monitrice. « Ben, comme ça, je boiterai plus, madame. »« Non, mais comme ça, tu auras mal aux deux pieds, » corrige-t-elle. Je hausse les épaules. La marche continue. Les élèves se font expliquer le fonctionnement d'une machine compliquée dans une étable. Puis, un moniteur nous demande de nous mettre en rang. Il va nommer les montagnes devant nous. J'écoute pas. Je me couche dans l'herbe haute en retenant mes larmes. Mes jambes sont plus dures que des bouts de bois. Et on continue à marcher. On arrive près d'une autre ferme. Des chèvres noires et blanches courent librement sur les talus. Des garçons s'amusent à leur faire peur en mimant les hommes des cavernes. Moi, je regarde mes pieds. Je dodeline de la tête. Même avec mes deux chaussures, j'aurais eu de la peine à faire cette marche. En famille, jamais on ne fait de promenade si longue. Les Suisses ont un nom pour ça. Randonnée. Pendant des années, j'ai entendu la maîtresse d'école ou des copains parler de leur randonnée du week-end. Je n'avais jamais bien compris de quoi ils causaient. Maintenant, je sais. Merci. Autour de la ferme, des petites billes noires traînent sur le sol. Je fronce les sourcils. Je me demande ce que c'est. Discrètement, je ramasse une. La substance est un peu molle. C'est bizarre, c'est quoi ? J'approche la bille de ma bouche et je croque dedans avec prudence. Le goût est tellement répugnant que je recrache tout de suite. Je continue à marcher. Le soleil baisse. Mon ombre s'allonge au point de remonter le long de la colline. Mais je distingue encore très nettement une chèvre qui passe devant moi en lâchant de son derrière une rafale de ces mêmes petites billes. Oh, quelle saloperie ! Non mais j'en ai marre. Marre ! Je ne connais rien à la montagne, ni à la randonnée, ni à la nourriture. Je hais la Suisse, je hais l'école, je hais la famille, je hais les Roumains qui ne savent même pas comment se chausser à la montagne. Les moniteurs nous encouragent. « Encore une petite heure et on arrive au bus », annonce-t-il. « Après, on descendra au camp et on regardera un film sur grand écran. Ce sera comme au cinéma. » Moi, je ne suis plus qu'une feuille sèche prête à s'effriter et disparaître dans le vent. Ce matin, en me réveillant, je ne savais pas que j'étais au début de la pire journée de ma vie. Mais pire, on trouve toujours. Une fois arrivé au bus, on s'entasse les uns sur les autres. Ça se pousse, ça se bouscule, ça chahute, comme disent les moniteurs. Moi, j'ai la tête qui tourne à cause des virages de montagne. Je serre de toutes mes forces les accoudoirs de mon fauteuil. J'ai le vertige, comme la fois où je suis monté sur le bateau pirate, le plus terrible manège du Luna Park. Et je sais ce qui va arriver. Et je sais aussi qu'il n'existe aucun moyen pour empêcher cette catastrophe. D'un coup, je vomis entre les sièges. Ça fait un bruit de lavabo débouché. Il y a de la soupe et des morceaux de gruyère partout. Tout le monde me regarde. Un garçon pouffe de rire en se pinçant le nez, tandis que les autres sont vraiment désolés. J'appuie doucement la tête contre le dossier de mon siège. Je veux mourir.
C'était Eugène, avec des extraits de son roman « La vallée de la jeunesse », enregistré à Soleure le 2 mai 2008.